franceinter.com.
CO2 mon amour, avec l'énergie moins chère.com, site d'information sur les primes énergie de Leclerc.
Ça se reconnaît en écologie.
Encore des mouvements de colère des routiers en France. CO2. Protestent contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui à la technique Pierrick Monsigny et Rémi Quincé, et assisté de Séverine Bouvard, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur sous forme de deux brèves. Alors j'espère que vous n'avez pas été touché par cette grosse gamelle spatiale américaine de plus de 6 tonnes qui nous est retombée sur le groin hier soir. Mais ce n'est pas grave, disaient les Américains, aucun danger, elle ne retombait pas aux États-Unis. Alors on va rester dans les moyens de transport car... Avec la puissance d'un 3 carrels de la Coupe du Monde de rugby, notre ministre de l'écologie a lancé le coup d'envoi de la semaine européenne de la mobilité, espérant par là même envoyer entre les poteaux de la rigidité comportementale quelques nouvelles idées ovales concernant tous les modes de transport, transport alternatif au tout automobile prescrit dans nos cerveaux depuis 50 ans. Oui, alors libre à nous de suivre sur cette lancée pour coller au sol quelques beaux essais. Eh oui, le vélo se sent pousser des ailes dans la mêlée citadine quotidienne. On reviendra sur le vélo. Les transports en commun progressent en ligne d'attaque cohérente. Et le pack des technologies Internet et smartphones relance l'action depuis le fond de terrain en permettant une grande fluidité du ballon. Autrement dit, covoiturage, autopartage, nouvelle recrue du club des mobinautes emporte l'adhésion d'une grande partie des tribunes qui se piquent de figurer à la pointe des crampons des plus performantes applications numériques. Derrière tout cela, économie d'énergie, de moyens, de stress, d'argent. Le monde certes bouge et bougera toujours, mais autrement, plus intelligemment, en arrêtant de polluer en rond, en tout cas un peu moins. Donc allez les petits, le mouvement est lancé, quelques touches de citoyenneté, une transformation des mentalités, c'est une bonne nouvelle. Et autre sujet, dans les animaux médiatiques qui font peur, j'aurais pu vous sortir de mon épuisette un requin dévoreur de surfeurs réunionnais au petit déjeuner, mais vos questions ont pointé le frelon, on va y revenir. Rien que le nom, évidemment, ça fait peur, pourtant, si on ne va pas le chercher, lui tirer la barbichette pendant qu'il bricole dans sa cuisine à chasser les mouches, eh bien, l'hyménoptère est plutôt tranquille, voire insouciant. Pas vraiment un guerrier, hein, malgré sa sérénade de cavalerie US hélioportée quand il fait du tourisme. Non, il veut juste trouver un magasin de fleurs ouvert, enfin plutôt une boucherie, hein, sans causer de tort à la société, mais personne ne l'aime. Et encore, le nôtre de frelon qui est né français, donc un enfant du pays en quelque sorte, on le supporte de loin, mais sans déclencher le plan Vigipirate. Mais s'il vient d'ailleurs, hein, s'il a des papates jaunes par exemple, hein, faut penser à regarder la couleur de ses pattes avant de lui ouvrir, et ben là il y a péril. Il s'agit du fameux frelon asiatique, un envahisseur, tout droit sorti d'une des capsules spatiales en porcelaine de la haute période Ming, aligné dans les dépôts d'un jardinland quelconque du sud-ouest, et ceux-là sont sans pitié. Oui, ils bouffent nos abeilles, aussi sûrement que le chinois dévore nos entreprises. Made in France, trop c'est trop. Donc depuis longtemps, épuisés par les pesticides, les brutalités du régent, du gaucho, du cruiseur, délivré avec bienveillance par notre ministre de l'Agriculture, les morsures du varroa et autres parasites, nos pauvres abeilles butineuses n'ont plus qu'à hisser le drapeau blanc. Propriétaires, vous qui décorez vos jardins de poteries exotiques, si un jour il n'y a plus d'abeilles, préparez-vous à féconder vos arbres fruitiers vous-même, car les prolétaires chez nous ont rendu le tablier. Aux armes citoyens, il est temps de sortir du maquis et de sauver les ruchers. Voilà, donc 5 questions qui sont arrivées à la fois par le courriel ou bien sur le répondeur de CO2 Mon Amour. Et on va commencer avec Jean-Marie Pell qui va s'y coller, qui va répondre à cette question. Et vous allez voir, c'est très bien parce que il y a du vent d'autant dans la voix de cet auditeur.
Bonjour l'équipe de CO2, bonjour Denis Chessou. Je projette de rallier Toulouse à 7 à vélo par les berges du canal du Midi. Or, j'apprends avec peine et stupeur que je risque d'être un des derniers à pouvoir me repaître des couleurs automnales. Les platanes plantées tout au long du parcours étant menacées d'abattage pour cause de mort inéluctable due à un champignon, le chancre coloré. Je me souviens avoir vu fin du siècle dernier des kilomètres de route du Tarn jonchés de platanes abattus. Le spectacle était désolant. À Narbonne, une place arborée va subir le même sort. Après les ormes, dans les années 70, la disparition du platane est-elle irrévocable ? Salvarem lo platano, Gilles Louzeau, Haute-Garonne.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors qu'allons-nous répondre donc, par rapport à cette question sur le canal du Midi, donc aujourd'hui chef-d'œuvre en péril et ces fameux platanes ?
Et c'est très terrible, vraiment, parce que c'est très beau, le canal du Midi. C'est très très beau. Je l'ai souvent vu à différents endroits. Ça va de Agde jusqu'à Toulouse. C'est le lien entre la Méditerranée et la Garonne. Il a été creusé sous Louis XIV, oui. Ça a été considéré avec Versailles comme l'œuvre du siècle.
C'était vraiment les grands travaux.
C'était les grands travaux.
Et d'ailleurs, il nous faut quand même saluer Pierre-Paul de Riquet, hein, qui était cet homme, qui a passé mais vraiment sa vie, sa fortune, qui est mort 58 ans quand il a commencé à faire ce canal, ce qui était un âge canonique.
Oui, absolument. Alors les platanes sont attaquées par le chancre, qui est une maladie cryptogamique, qui est imparable, qu'on ne sait pas soigner, parce qu'on ne sait pas inoculer aux platanes des antifongies qui seraient efficaces. Et donc, quand ils sont attaqués, ils meurent. Ils ne guérissent plus. Et ils sont en train de mourir à plusieurs endroits sur le canal. On en a déjà enlevé pas mal dans plusieurs endroits, du département de l'Aude en particulier. Alors, ce n'est plus le canal du Midi. Et c'est très triste. Et la question est de savoir comment on va s'y prendre pour remettre d'autres arbres, dans la mesure où l'on pense que, à partir de 2013, vu l'évolution de la situation, il faudra en tuer à peu près 4 000 par an. C'est énorme.
Sur les 42 000 au total.
Sur la 42 000. Donc en 10 ans, il n'y en aura plus. Alors, comment va-t-on remplacer ces platanes ?
Mais déjà, comment cette maladie est venue ?
Alors, elle est venue des Américains. C'est une maladie qui a été découverte en Amérique en 1929. Elle est rentrée lorsque l'armée américaine est arrivée en 1944. Il semble qu'elle soit rentrée par Marseille. Le parc Borély a été atteint immédiatement après la guerre, où des arbres ont déjà disparu. Et puis elle s'est propagée, et elle se propage par l'homme. C'est quand on veut élaguer des platanes, par exemple, le champignon est installé sur les engins qu'on utilise. Donc c'est l'homme qui propage la maladie, ce qui est très rare et très curieux. Alors on a trouvé une race, c'est un chercheur de l'INRA, qui a trouvé un moyen de produire par sélection génétique un platane résistant. Et on l'a appelé le platane or, parce que c'est le platane en or. Mais on hésite à le planter partout, à la place de ceux qu'on enlève, parce qu'on se dit, si tout d'un coup, le champignon devient, lui, résistant...
S'il y a un autre chancre coloré...
Évidemment. Ouais. Alors ils partiront de nouveau tous en même temps. Alors la doctrine, c'est de ne plus mettre une seule espèce.
Bah, la diversité, c'est ce que l'on fait dans les forêts aussi pour l'adaptation au réchauffement.
C'est la même chose. Oui. C'est ce qu'on veut faire. Alors on envisage de mettre des frênes, on envisage de mettre ce platanor en particulier, et de boucher les trous au fur et à mesure, sauf que ça sera des petits arbres. Ça ne sera pas la magnifique voûte de platane. Et cette magnifique voûte de platane, qui est donc en péril, Louis XIV ne l'a pas vu.
Non.
Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a planté des petits arbres. Et la deuxième raison, c'est que ce n'était pas des platanes qu'on a plantés. Parce que les platanes, on les a plantés vers 1850, à partir de 1850. Dans tout le Midi de la France, les platanes, disons, ont 100 à 150 ans. Bon, alors, c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Il est classé, le canal du Midi. Je pense que la volonté politique très forte de sauver ce patrimoine ne donnera pas à l'UNESCO la mauvaise idée de le déclasser, parce qu'il y a une mobilisation pour le remettre tout de même en bon état. Donc nous allons supplier l'UNESCO de nous donner du temps et de nous faire confiance. C'est ça qu'il faut dire.
Donner du temps parce que leur plantation prendra entre 30 et 40 ans.
Mais oui, c'est ça, ça s'étale sur des décennies, évidemment, oui, tout à fait. Voilà la triste histoire du canal du Midi. Il ne s'appelait pas comme ça. Il s'appelait le canal royal. Oui, bon. Il a été débaptisé à la Révolution.
C'est ça, 1789, voilà. Hop, Canal du Midi.
Il est devenu Canal du Midi.
Merci Jean-Marie, on va se retrouver la semaine prochaine. Ça va être une suite en fait un peu.
Oui, ça va être une suite parce qu'on va réfléchir à quels arbres on peut planter quand les platanes meurent.
Bon, il y en a un qui vous plaît, mystère, suspense, jusqu'à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Et sur mon carnet à spirale, qu'est-ce que j'ai? Donc après ces merveilleux platanes, eh bien, j'ai encore quatre autres sujets. On va prendre le vélo dans quelques instants.
J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît.
Mais j'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique.
J'ai un nain fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond sans intérêt. Des boules de gomme et des matins pas frais.
J'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique.
Ton amour, c'est vrai. Mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
Garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique.
C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je veux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait.
C'est ce qu'on appelle un classique hein, chez nous, absolument. C'est Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur, qui a donc choisi ce William Scheller. Et puis donc aujourd'hui, question donc de votre part, donc question des auditeurs avec des réponses, on espère un petit peu pertinentes. On va prendre notre bicyclette, tenez.
Bonjour à toute l'équipe de CO2. Je m'appelle Claire, j'habite Palaiseau et j'ai une question sur les modes de transport. Voilà, la voiture, ça coûte assez cher. J'aimerais bien utiliser le vélo régulièrement, mais c'est vrai que comme je suis pas Jeannie Longo, c'est un peu compliqué. Puis des fois, il pleut, tout ça. Donc, je voudrais savoir quels pourraient être les arguments qui m'inciteraient à utiliser le vélo, notamment sur les trajets de transport journaliers. Merci beaucoup et au revoir.
Ben, au revoir à vous, Claire. Donc, d'abord, il n'est pas forcément nécessaire de prendre de l'EPO hein, pour faire du vélo. Vélo en ville, on va en parler avec Jean-Marie Darmian, qui est le président du Club des villes et territoires cyclables, qui a son assemblée générale tout prochainement. Donc, ça représente plus de 1100 collectivités. Aussi bien, si vous voulez, Paris que Créon. Alors, Créon, ben, c'est pas très, très gros. Hein, c'est du côté de la Gironde. 6 régions aussi de France ont adhéré donc, à ce club. Alors, le vélo, remède anti-crise. Quelles sont vos réflexions, Jean-Marie Darmian?
Alors d'abord, il faut partir de deux constats objectifs qui sont confirmés dans toutes les études. Le transport est le deuxième poste dans les budgets des ménages, Donc si l'on veut jouer sur le pouvoir d'achat et sur l'aide que l'on peut apporter aux familles, c'est déjà le poste le plus sensible derrière le logement. Le deuxième point, c'est que le coût de l'utilisation de la voiture individuelle est en forte hausse, puisque une voiture à essence de type Clio s'est levée en 2010, d'après l'Automobile Club, qu'on ne peut pas suspecter d'être partiel à la matière, à 5 744 euros par an, pour une moyenne de 9 000 km. Donc une augmentation de 3,4. Donc on est en plein dans un système dans lequel les modes de transport et la mobilité pèsent sur le budget des ménages français et dans une période dans laquelle toutes les économies doivent être envisagées et notamment dans tous les secteurs de la vie publique.
Alors aujourd'hui, donc succès, on va dire, des vélos de location, que ce soit, on va commencer par, quand même par La Rochelle, parce qu'à l'origine, c'était quand même eux avec...
Oui, c'est exact.
Oui, on l'a oublié. Bon, Strasbourg, Marseille, évidemment Paris, Lyon, etc. Ça fonctionne bien. Vous voulez même aller plus loin, c'est-à-dire que les gens, peut-être, aient leur propre vélo
Oui, l'idée générale, c'est qu'il faut surfer, pour employer un mot à la mode, sur cette vague qui a été mise en évidence par le vélo en libre-service. Et incontestablement, s'il y avait des réticences à l'usage du vélo, elles tombent avec les fréquentations des vélos en libre-service sur les grandes métropoles. Désormais, il faut envisager l'appropriation du vélo à un autre niveau, par les familles, par les gens qui vont travailler, par les étudiants. Et il faut absolument que l'on aille vers un plan national vélo qui permettrait de renforcer cette dynamique qui a été créée depuis 2003-2004.
Que proposez-vous justement pour créer cette dynamique? Parce que déjà depuis un certain temps, on attend une indemnité vélo et on voit que ça existe ailleurs, l'indemnité vélo.
Oui, l'indemnité vélo existe chez nos voisins belges qui a priori ne sont pas plus ruinés que nous actuellement. Nos amis belges ont mis en évidence que quelqu'un qui utilisait le vélo pour aller à son travail était quelqu'un qui méritait d'être encouragé et aidé avec une prime de 0,21 euros, mais nous on prône 0,20, vous voyez, on est modeste, 0,20 par kilomètre parcouru tout au long de l'année, ce qui représenterait pour quelqu'un qui fait 8 km par jour à vélo, aller-retour environ 350 euros de prime annuelle, ce qui n'est pas quelque chose de dément au sens de la proposition, puisque si on rapproche ça de, par exemple, du coût de l'utilisation de l'automobile, si on rapproche ça de l'impact environnemental de l'utilisation de l'automobile et aux frais induits qu'elle génère, on en est loin.
Oui, parce qu'on ne compte jamais, évidemment, toutes ces externalités, comme on dit publiquement. Aujourd'hui, combien de personnes, on va dire, pratiquent le vélo et qu'est-ce que l'on pourrait espérer ?
En 2011, les chiffres d'une évaluation, même pour l'année 2010 d'ailleurs, on serait aux alentours de 4,1% des Français qui pratiqueraient le vélo. Ce qui est un chiffre très bas.
Alors on voit bien que socialement, la voiture maintenant est en train de régresser, parce que ça a toujours été quand même cette représentation qui a été forte. Ça apporte incontestablement aussi des bienfaits lorsque l'on habite loin. Quels sont encore les freins et quels sont les plus pour que nos concitoyens puissent s'emparer du vélo ?
Alors prenons un exemple. Il y a un grand débat au niveau gouvernemental sur les économies que l'on peut réaliser dans la gouvernance du pays. Une personne qui accomplit un trajet ordinaire dont je parlais tout à l'heure de 8 km vélo économise à peu près 1,21 € par kilomètre parcouru sur la santé, sur les dépenses de santé. Parce que quelqu'un qui utilise son vélo est quelqu'un qui a une vision vraiment citoyenne de la société, puisque non seulement il va économiser sur sa propre vie, il va économiser sur son propre budget, mais en plus il participe à l'effort national de trois façons. D'abord, en économie de carburant et d'achat extérieur de carburant et d'énergie non renouvelable. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui économise donc environ 1400 euros par an sur le budget de la santé de façon globale. Et d'autre part, il économise également sur la pollution à l'égard des autres, donc il propose aux autres qui l'entourent une économie également sur leur budget personnel de la santé.
Il est obligé de penser, on va dire, collectivement et non pas individuellement.
Voilà. On ne comprend pas actuellement, au niveau des collectivités territoriales, pourquoi l'État n'exploite pas de façon beaucoup plus forte la pratique du vélo dans les politiques nationales.
Est-ce que vous voyez des hommes politiques pratiquer la bicyclette très très peu aujourd'hui ?
Ben non, parce qu'ils sont comme moi, ils sont très pressés, ils ont toujours l'excuse de dire que ça c'est une culture nationale qui consiste à dire que l'efficacité c'est la vitesse d'un point à un autre. Mmh. On voit bien le grand débat qu'il y a sur les LGV, on ne mesure pas les coûts induits, on se focalise sur un Bordeaux-Paris dans lequel on économisera 20 minutes, et on dira oui mais c'est beaucoup mieux parce que vous avez économisé 20 minutes sur la distance Bordeaux-Paris, alors que l'impact environnemental ou l'impact global n'est jamais estimé.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Alors les gens font aussi du vélo, Jean-Marie Darmian, lorsqu'il y a des infrastructures. C'était lorsqu'on a soit des pistes cyclables ou bien des bandes cyclables, bon, qui sont moins sécurites, et aussi lorsque l'on peut accrocher, ranger son vélo sans se le faire piquer.
Alors d'abord, c'est vrai. Premièrement, c'est les deux freins actuels. La sécurité avec le vélo ne repose pas uniquement sur les aménagements. Il est incontestable que cet été, j'ai fait faire une étude sur Créon avec les touristes, même si vous mettez les meilleurs parcs à vélo, ils veulent leur vélo près d'eux parce que c'est devenu un enjeu social. C'est valorisant pour le vélo. C'est la première année où je vois des vols de vélo sur la commune de Créon qui est pas une banlieue à risque. Deuxièmement, ils veulent des lieux sécurisés pour se déplacer, et c'est vrai que les zones de rencontre, le code de la rue, les mesures que l'on peut prendre pour sécuriser les cyclistes deviennent importantes, mais elles traînent en France depuis des années. On se renvoie d'étude en étude, d'avis du Conseil d'État en avis du Conseil d'État, alors qu'en Belgique, en Allemagne, je disais à Séville en Espagne ou à Ferrare en Italie, il y a longtemps que ces mesures-là sont en activité et ont démontré leur efficacité.
Alors, vous proposez dans le club des villes cyclables et des territoires cyclables un programme national au travail à vélo. Rappelez-nous la participation de l'employeur aux frais de déplacement, domicile, travail des salariés. Qu'est-ce que ce serait ?
Alors actuellement, on parlait, nous, d'une prime qui serait aux alentours de 0,21 euros au kilomètre parcouru avec la signature d'un contrat de citoyenneté déplacement vélo. Dans les grandes métropoles, on n'est pas pour que ça soit pris sur le budget transport collectif, puisqu'on est dans le vélo comme un outil de l'intermodalité. Donc cette aide pourrait se résumer par une aide ponctuelle ou par l'achat massif de vélos des entreprises, par exemple qui mettraient 50 vélos à la disposition gratuitement de ses salariés, et l'entreprise pouvant déduire de ses frais généraux l'achat d'une flotte de 50 ou de 100 vélos ou de 10 vélos selon l'importance de l'entreprise.
On rappelle que 50% des déplacements quand même se font sur moins de 2 km aujourd'hui.
Oui.
Il y a un succès, ce n'est pas maintenant un signal faible, on le voit très très bien et qui monte en puissance, ça va même monter avant la voiture électrique, c'est le vélo électrique.
Les collectivités locales ont massivement investi dans le vélo électrique et chaque jour, il y a une collectivité locale qui imagine quelque chose dans ce domaine-là. Donc il y a à la fois les primes à l'achat qui varient en France, d'après l'enquête du Club des villes cyclables, entre 150 et 500 euros selon les villes et les contextes.
Ce qui peut représenter à peu près un tiers ou un quart du vélo.
Voilà, et qui fait que actuellement les chiffres de montée en puissance du VAE se traduisent pour la première fois dans l'histoire de la France depuis quelques années par une augmentation du chiffre d'affaires de la filière économique du vélo. C'est-à-dire le VAE est en train de prendre une importance dans le périurbain.
Quand vous dites VAE, c'est vélo assistance électrique.
Hein, vélo assistance électrique, oui. Est en train de prendre une importance tout à fait particulière dans le milieu périurbain parce que on estime qu'à partir de 15 km, le VAE est un outil de déplacement parfaitement efficace et qui peut être beaucoup plus utilisé qu'il ne l'est actuellement.
Dans le fond, est-ce que c'est pas, je veux dire, nos esprits qu'il faut un peu déverrouiller ? Est-ce que c'est pas la représentation sociale qui est en train d'évoluer avec ce vélo ?
Je crois que le vélo, c'est une idée très moderne, extrêmement moderne. C'est peut-être l'idée la plus moderne des prochaines années en matière de développement durable et en matière de mobilité. Si on le met dans un contexte d'intermodalité, c'est-à-dire que le vélo n'est pas la solution, mais le vélo peut participer à des solutions collectives au niveau d'un certain nombre de territoires. Si on prend par exemple à Paris, les aides VAE ont représenté 2160 aides pour les vélos assistance électrique en 2010 et 220 pour les cyclomoteurs électriques. Donc c'est bien la preuve que le vélo a beaucoup d'avenir dans les déplacements.
Et ça fait du bien, hein. Vous voyez, la vie à 15, 20, 25 km/h, ça change par rapport à la vitesse qu'évidemment
le vecteur numéro un de nos belles sociétés. Nous avons évidemment le site avec des considérations sur le vélo aussi, sur le site de CO2 Mon Amour, donc nous vous laissons y aller. Et nous avons donc une autre question, donc aussi, qui est arrivée sur le répondeur 01 56 40 40 35.
Bonjour à toute l'équipe de CO2 Mon Amour. Donc, je m'appelle Corinne, j'ai 48 ans. Je vous appelle de Lisieux, donc Lisieux qui est la capitale du pays d'Auge dans le Calvados. Et je voudrais vous poser une question sur les jardins partagés. Je connaissais les jardins familiaux qui sont des parcelles mises à disposition des habitants par les municipalités. Des parcelles qui généralement sont affectées à la culture potagère pour améliorer les conditions de vie des ouvriers. Et je voudrais savoir en quoi les jardins partagés sont différents de ces jardins ouvriers.
Eh bien, Corinne, on va tâcher de vous répondre à Lisieux, pays d'Auge. Au sud, vous avez Livarot. Au nord, vous devez avoir Trouville. Voilà. Donc, vous saluerez Thérèse de notre part. Et donc, les jardins partagés, c'est Laurence Baudelet, donc, qui est coordinatrice de Graines de Jardin, qui vous répond.
Alors, c'est des gens qui jardinent ensemble, si possible, en bas de chez eux, et qui, en même temps, proposent des animations pour le quartier qui sont ouvertes aux non-adhérents du jardin, donc qui sont ouvertes à tout public, hein, et qui sont des animations type projection de films en plein air, une chorale qui vient chanter, un repas de quartier, des choses comme ça.
Quelle différence y a-t-il avec les jardins ouvriers que l'on a connus ?
Dans les jardins ouvriers ou jardins familiaux, l'objet principal, en fait, c'est de produire pour sa propre consommation.
Donc du potager, on va dire ?
Voilà, principalement. Mmh. Et puis, dans les jardins partagés, on est aussi sur, bien sûr, de la culture des plantes en général, pas seulement des plantes potagères, mais aussi sur un objectif de lien social, on va dire.
Combien de jardins aujourd'hui en France et, on va dire, en région parisienne ?
Alors, en France, disons autour de 400, je dirais, un peu comme ça, à la louche, quand j'en discute avec mes collègues des autres régions. Et puis, en Ile-de-France, on est à plus d'une centaine.
Alors, ça veut dire aussi une politique foncière, on imagine bien, parce qu'il faut quand même avoir un peu de terrain.
Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a des villes qui aujourd'hui pensent que c'est important de développer, de favoriser ce type de projet et qui mettent du foncier à disposition. Et également des organismes HLM, des bailleurs sociaux.
Laurence Baudelet, est-ce que déjà on commence un peu à avoir des résultats ? Je ne suis pas sûr du quantitatif, puisque là vous nous parlez surtout de bien-être avant toute chose. Mais qu'est-ce que l'on peut constater lorsque l'on travaille sur un jardin partagé ?
À la fois sur du quantitatif d'une certaine façon et du qualitatif. On est sur du quantitatif si on veut regarder par exemple le nombre d'enfants qui viennent jardiner, parce qu'il y a beaucoup de jardins qui sont ouverts aux écoles, donc qui proposent des parcelles pédagogiques, hein, à des centres de loisirs, à des écoles notamment primaires et maternelles qui sont situées pas loin du jardin. Donc là, on pourrait regarder le nombre de centaines et de milliers d'enfants qui jardinent tous les ans dans ces jardins. Bon, c'est pas propre aux jardins partagés. Les enfants peuvent jardiner aussi dans les jardins familiaux, bien sûr. Et puis, il y a du pédagogique en milieu scolaire. Mais donc, les jardins partagés apportent une offre supplémentaire. On peut regarder aussi d'un point de vue qualitatif, en fait, ce que ça change du point de vue de l'ambiance, on va dire, dans le quartier, dans l'image aussi du quartier. Nous, on travaille beaucoup dans des quartiers qui sont pas forcément des quartiers, comment dire...
Bobo.
Bien vu, ouais. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant pour ces habitants, c'est d'une part de faire quelque chose de sympathique déjà pour eux, enfin pour les jardiniers, mais aussi de proposer aux habitants du quartier un lieu où on peut venir. Par exemple, là, nous, on travaille à Creil en ce moment, qui n'est pas un quartier en soi qui peut-être attire énormément le public, mais du coup, il y a une porte ouverte.
Respiration et en même temps, lien social, on l'entend bien. La ville de Paris, je crois, a multiplié par 20, en fait, ces jardins partagés en assez peu de temps.
Alors, la ville de Paris, alors c'est la région en fait, hein, Île-de-France qui a multiplié par 20 ses jardins partagés en une décennie, sur la décennie des années 2000. Paris en fait a mis en place une politique publique qui s'appelle Main Verte en 2003 et qui a permis effectivement aussi de développer considérablement les jardins partagés. Et on est à peu près à autour de 70 jardins partagés dans la capitale aujourd'hui.
Alors il y a donc tout un travail en région parisienne qui est effectué aussi avec Nature Paris, je tiens à le signaler. Et puis une chose extrêmement importante, c'est qu'on apprend le jardinage, mais aussi derrière pour pouvoir s'alimenter plus tard. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même juste le rappeler, si vous êtes en Île-de-France, on a une autonomie alimentaire d'à peu près 3-4 jours. Dans les années... Allez, il y a une quarantaine d'années, il y avait 40 jours à peu près d'autonomie alimentaire. Donc c'est très très différent aujourd'hui. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel nous reviendrons. Nous avons parlé du canal du Midi, nous avons parlé du vélo, des jardins partagés. Qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, on va parler de décroissance et de frelons. Ça n'a pas de rapport, mais c'est ça qui est intéressant dans cette émission. Musique.
How come you never go there? How come I'm so lonely? glasses and they come. It's true enough for not at peace. But peace is never what it seems. Our love is not the light it was. When I walk inside the dark, I'm gone. And where we look for where it went.
Bien, cette Canadienne qui s'appelle Fest, vous l'avez reconnue sur France Inter. Nous poursuivons notre voyage avec vos questions. Et en voici une autre.
Bonjour Denis, bonjour CO2. Je vous appelle concernant la décroissance et l'idée selon laquelle on pourrait vivre dans une société qui serait basée sur cette décroissance. Voilà, je me demandais si ce n'était pas tout simplement une utopie. Merci pour votre réponse. Au revoir.
Alors, tout à fait intéressant parce que ce mot-là, donc maintenant on commence à le connaître. Timothée Duverger est un homme qui est doctorant en histoire moderne et contemporaine à l'université Michel de Montaigne. C'est un homme qui s'intéresse depuis longtemps à ce qu'on appelle les histoires des brèches. Vous voyez, donc effectivement les choses qui sont en train de s'ouvrir aujourd'hui. Et ce mot, on va le dire, de décroissance était encore à peu près, on va dire, inaudible il y a 3-4 ans dans notre société. Donc, qu'en est-il? Timothée Duverger, vous avez écrit « La décroissance, une idée pour demain ». C'est aux éditions Sang de la Terre, avec le travail d'historien aussi. Donc, vous remettez un peu tout cela en perspective dans votre ouvrage. Donc, je le disais, donc, mot inaudible encore il y a quelques années dans la société.
Oui, tout à fait. Mais il a participé des effets de la crise complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il a d'une part émergé dans les années 70, mais de façon immergée en fait dans tout un discours écolo. Il a été pris comme slogan en fait en 2002 et aujourd'hui, effectivement, à la faveur de la crise, il perce dans l'imaginaire collectif.
Alors, on va voir, on va donner une définition, enfin on va tenter, mais comme vous parlez des années 70, donc il y a des penseurs qui ont réfléchi à ça, il y a des pionniers comme André Gors, comme Nicolas Georgescu-Rogen, et puis donc il y a eu aussi le fameux Club de Rome dans ces années 70, qui a rendu donc un rapport qui était les limites de la croissance. Ça participe de cela, la décroissance ?
Le Club de Rome a fait publier un rapport par des chercheurs du MIT qui s'appelle donc le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, et dans lequel il est expliqué qu'il y a des limites au développement économique, des limites que sont tout simplement la capacité terrestre, c'est-à-dire tout ce qui est l'épuisement des ressources en particulier, et puis après, par la suite, aujourd'hui, on parle en aval du réchauffement climatique, mais également les pollutions. Donc ce rapport du Club de Rome met en place une légitimation de l'écologie après 68 qui se développe dans le cadre des mouvements sociaux.
Aujourd'hui, c'est la décroissance, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est un modèle économique de plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise de démystification aussi des grands thèmes de la modernité.
C'est d'abord un mot au but qui vise à pulvériser l'idéologie économique dominante. Donc il ne s'agit pas d'une idéologie contre idéologie, il ne s'agit pas d'un nouveau grand récit comme a pu l'être le marxisme par le passé, mais effectivement c'est d'abord une entreprise de démystification. En fait, l'idée, c'est quand on parle de démystification, c'est de parler plutôt, non pas d'ailleurs de décroissance, dit Serge Latouche, mais parler de d'accroissance, comme on parle d'athéisme, puisqu'il s'agit de cesser de croire en la croissance comme solution à tous nos maux.
Si vous n'avez pas un iPhone, vous n'avez pas l'App Store, avec la plus large sélection d'applications au monde.
Alors, comment faire tourner la machine ? Ça, c'est la question classique. Comment donc aborder une transition ? Et puis aussi, comment être capable de donner envie ? Vous savez que nous sommes des animaux de plaisir, que très souvent la vie est un troc. Donc certains vont vous dire, attendez, moi je suis bien dans la société de consommation, même si elle me pose des problèmes. Donc qu'est-ce que vous me donnez à la place ? Parce que ce mot-là de décroissance, et vous le savez, dit en fait un monde, une civilisation qui est en train de mourir, qui se ferme, mais peut-être pas encore celui qui s'ouvre.
Alors, vous avez tout à fait raison de signaler ces deux points, en fait, l'aspect à la fois technique de la transition et l'aspect comment l'enraciner du côté du désir, en fait. Comment désirer non pas forcément la décroissance, mais la société qu'elle ouvre derrière, puisque vous avez raison de signaler qu'il s'agit d'une fermeture de la société présente. Alors, sur le plan du désir et du plaisir, la réponse est comment l'enraciner dans ce pôle du désir. Eh bien, la réponse, c'est d'abord de dire, finalement, nos sociétés hyper modernes, elles vivent une crise de sens. C'est-à-dire, les gens voient bien que l'illimité n'est plus porteur de sens, donc ils sont un peu perdus et la décroissance...
Plus personne ne sait où il va, hein, soyons très clairs.
Exact. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est la fin des grands récits depuis 30 ans. Et l'hypermodernité, avec notamment le substitut, c'est-à-dire la consommation et la consommation comme expression de soi, voit aujourd'hui ses limites. Donc la décroissance, elle valorise plutôt que le quantitatif, le qualitatif, c'est-à-dire donner du sens, un sens qui soit social, moins de biens, plus de liens, un sens qui soit poétique, c'est-à-dire développer des activités épanouissantes. Et c'est finalement la société civile contre le tout marchand.
Cette démarche, est-ce qu'elle relève, on va dire, de la conscience individuelle ? Réponse oui. L'insurrection des consciences, on parle très souvent Pierre Rabhi. Est-ce qu'elle relève du politique aujourd'hui ? Et on ne voit pas quand même beaucoup de politiques s'en emparer. Ils peuvent en parler aujourd'hui, ça c'est la différence, mais ils ne s'en emparent pas vraiment.
Alors, il y a trois niveaux d'action identifiés notamment par Paul Ariès. Le premier, c'est, vous l'avez signalé, c'est la conscience individuelle, c'est la simplicité volontaire. Comment dans mon quotidien, je peux épurer un certain nombre de comportements de consommation que je juge négatifs pour avoir un rapport plus direct au réel et en être plus heureux finalement, aller vers l'essentiel plutôt que de m'environner simplement d'objets. Le deuxième niveau d'action, c'est un niveau collectif, social, de la société civile. C'est typiquement tout ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, des associations, même de la famille, l'investissement dans sa vie privée, ça en fait partie. C'est tout ce pôle qualitatif, ce sens social dont je parlais tout à l'heure, cet épanouissement qui est à construire collectivement dans nos relations. Et ensuite, troisième élément, effectivement, le politique. Alors le politique, il y a deux façons de l'aborder. C'est un, soit on crée des micro-partis, certains le font, pour essayer de peser dans le débat avec plus ou moins d'efficacité parce que leurs scores ne sont pas à la hauteur de leurs idées. Le deuxième moyen, c'est d'influencer les partis existants. Et là, on voit qu'il y a un débat public qui a été créé véritablement, et là, vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a 2-3 ans, en fait, à la faveur de la crise, un véritable débat public, donc, qui a une influence sur les partis politiques. On voit partout parler de décroissance. Alors, parfois pour la stigmatiser, parfois, au contraire, pour en reprendre certaines idées. Je pense en particulier à droite, par exemple, puisque je suis moi-même de Bordeaux, il y a Alain Juppé qui a pu parler de décroissance. Alors, qu'est-ce qu'il met derrière ? C'est la question, évidemment, il l'applique plutôt à la question de l'usage qu'on fait des ressources. Il dit qu'il faut...
Tout le monde sera d'accord sur la décroissance énergétique et des matières premières, on va dire.
Voilà, plus de sobriété, c'est ça. Oui. Mais après, il a dit également, il a par exemple une phrase un jour où il a expliqué, voilà, il faut de la croissance dans les pays pauvres, les pays du tiers-monde, mais par contre, il faudrait peut-être envisager... Alors, entre guillemets, une certaine forme de décroissance pour les pays du Nord. Donc, vous voyez, ça perce quand même...
Ne soyons pas révolutionnaires, quand même. Voilà.
Ne soyons pas... Alors là, je parlais évidemment du fondateur de l'UMP. Donc, forcément, qui est plutôt défenseur du capitalisme et donc de la logique du toujours plus. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile de leur côté. En revanche, du côté, par exemple, à gauche,
on voit... À gauche, on est quand même sur des modèles productivistes aussi.
Pas seulement, justement, et c'est en train de muter. Alors effectivement, c'est plus vrai pour, par exemple, le Parti communiste, mais si on regarde le Parti de gauche, s'est positionné il y a déjà 2 ans pour une sortie du nucléaire, est très proche du mouvement de la décroissance, avec par exemple à sa tête qui co-préside Martine Billard, une ancienne écologiste, enfin toujours écologiste, mais ancienne des Verts, et également, par exemple, même au Parti socialiste, donc un parti de gouvernement, qui a adopté lors de sa convention pour un nouveau modèle de développement en 2010, la notion de croissance sélective, hein, comme les Verts l'avaient fait auparavant dès 2004.
Optimiste pour eux. Enfin, oui, d'accord. Oui.
Oui, mais quand même, ça bouge parce que regardez la question du nucléaire qui est au cœur des débats particulièrement hein, avec Fukushima. Donc on voit également l'impact des événements dans la prise de conscience.
Mais là, vous basculez sur autre chose. Là, vous basculez quand même sur, effectivement, sur un débat énergétique qui sera à peu près le seul que nous aurons lors des présidentielles qui n'inclut pas forcément directement la décroissance, à part la décroissance énergétique.
C'est quand même un des éléments importants. Alors effectivement, là où vous avez raison, c'est-à-dire que oui, ils disent décroissance énergétique, ça c'est dans le programme hein, même du Parti socialiste, mais derrière, ils disent croissance quand même, mais croissance sélective.
La mer picon, c'est bon. Pec, pastis, pec, plus de gosier sec, pastis, pec, pour plaire au fin bec, pastis, pec, le pastis impec.
Timothée Duverger, concrètement, le quotidien, ça ressemblerait à quoi ?
Quand je disais la décroissance n'est pas une idéologie, c'est-à-dire elle n'est pas un dogme. Donc elle ne va pas dire, elle ne va pas prescrire en fait des normes dans la vie quotidienne. Toutefois, on peut évidemment voir ce qui se fait au quotidien. Et donc je parlais tout à l'heure de la société civile. Ce que font les gens dans les associations. Toute cette réciprocité qui fonctionne au quotidien par rapport par exemple à l'aspect désincarné parfois de la solidarité organisée par l'État. Tout ce qui est de l'ordre des activités épanouissantes. Je veux dire, beaucoup de gens, par exemple, s'intéressent aux arts, à la culture. C'est des,
oui,
c'est des choses.
Ce que je veux dire, c'est que tout ceci peut se faire sans employer le mot de décroissance. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font, peut-être pas assez, mais enfin.
L'enjeu du terme décroissance, c'était d'abord d'être un slogan qui visait effectivement à démystifier ce qui était la doxa. Parce que même si ces pratiques alternatives existent, il n'empêche qu'elles ne sont pas forcément
normales. Je pense qu'elles sont alternatives, celles-là.
Elles sont normales, mais elles sont alternatives par rapport à la doxa. C'est-à-dire que, si vous voulez, le discours dominant du néolibéralisme, c'est quoi ? C'est de valoriser la performance, c'est de valoriser le travail. Face à ça, il y a d'autres types de valeurs qui sont présentes. Et c'est là qu'on voit le potentiel à la fois critique, mais aussi pas seulement utopique de la décroissance, c'est qu'elle est déjà présente au quotidien, effectivement. Et c'est ces valeurs-là, en fait, qu'il s'agit de mettre en avant, plutôt que la culture du consumérisme, avoir une culture de la qualité de vie.
L'ouvrage de Timothée Duverger aux éditions Sang de la Terre s'appelle « La croissance, une idée pour demain ». Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah ben il nous reste un petit frelon, oui. Mais avant le frelon, vous allez vous piquer d'amour. C'est amusant. Avec Catherine Ringer.
C'est au de mon amour, Denis Chessy.
Je fais que penser à mon amoureux. Je fais que penser à nous deux. D'ailleurs, ça vient tout seul. Un moment à moi et c'est parti. Un moment à moi et voilà, je revis nos heures. Et ça vient tout seul. Et je ressens la gamine était tout allumée et la gamine voulait tout me raconter. Son cœur venait tout seul. Elle avait un air extraordinaire. Elle avait un air. Et
Voilà, qu'est-ce que c'est bien ça, Catherine Ringer. Je vous ai pas cité d'autres ouvrages, je vous ai parlé donc de La décroissance, une idée pour demain, Timothée Duverger. Mais il y avait aussi Paul Ariès qui a écrit La simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance. Le bonheur est-il dans la décroissance? C'est la Fondation Jean Jaurès qui a sorti cela. Et Serge Latouche, vers une société d'abondance frugale. Enfin, vous avez pas mal de littérature sur ce thème. Notre dernière question, donc question auditeur. Un garçon, une fille, je crois que c'est un garçon.
Bonjour Denis, c'est Patrice de Montélimar. Pourquoi devrions-nous craindre plus le frelon asiatique que nos frelons hexagonaux? Pouvez-vous m'éclairer sur cette grosse et nouvelle bébête, s'il vous plaît? Merci, à très bientôt.
Exactement. Bon, Patrice, on va essayer de tenter de répondre avec Richard Legrand, qui est le vice-président du syndicat des apiculteurs de Dordogne, pendant que ce vol du frelon donc est en train de passer. Et donc, tout à l'heure, dans mon petit édito, je parlais de l'arrivée du frelon asiatique, qui serait arrivé dans une poterie chinoise importée dans le département du Lot-et-Garonne. Richard Legrand, qu'en est-il ?
Ça, c'est une hypothèse, l'histoire de la poterie. En fait, la personne qui importait des poteries allait acheter des poteries en Chine et ça a été le premier à être capable d'identifier le frelon asiatique. Et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était parti de chez lui au départ. Donc la deuxième hypothèse, ça serait tout simplement qu'une femelle de frelon asiatique est arrivée dans un conteneur de n'importe quoi, dans le port de Bordeaux, et qu'elle a réussi à s'implanter et à se multiplier, puisqu'une seule femelle fécondée peut en fait conquérir un continent.
En 2004, on recensait 3 nids dans un seul département. Aujourd'hui, près de 2000 dans 39 départements. Donc, il se reproduit bien.
Oui, il se reproduit bien. Et puis en fait, ces 2000 nids sont largement sous-évalués, puisque en fait ce sont simplement les nids qui sont déclarés et identifiés pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Mais de très très nombreux nids aujourd'hui ne sont pas signalés. Donc les gens les connaissent, ils font venir un désinsectiseur et ils font disparaître le nid. Donc la progression est énorme. Le frelon asiatique, on peut compter qu'il traverse un département par an. Il progresse d'une centaine de kilomètres. On commence à en trouver en Espagne. Il est sur une quarantaine de départements au moins en France, avec une petite implantation sur Paris. On a trouvé des nids dans la région parisienne il y a 2 ans. Et surtout sur le secteur de la Bourgogne, où là, c'est plusieurs centaines de nids qui sont identifiés.
Richard Legrand, alors on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 30% du cheptel des abeilles, si on fait une moyenne nationale, donc malheureusement qui disparaît. On sait que les causes sont bien sûr multifactorielles, et donc aussi ce frelon asiatique. Alors pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Qu'est-ce qu'il fait en fait?
Alors c'est un frelon qui s'adapte très très bien sous notre climat. Petits nids chez nous sont les nids qui sont de taille maximum dans le pays d'origine. Et on trouve donc des nids beaucoup plus gros, 4, 5 ou 6 fois plus gros que dans le pays d'origine. Il s'y trouve très bien, il a de la nourriture en abondance, donc il se comporte sans souci de renouvellement. Donc vis-à-vis des ressources alimentaires, et ces ressources alimentaires sont principalement des insectes, pendant l'été et à l'automne, qui lui permettent d'élever les larves comme source de protéines pour les larves.
En fait, Richard Legrand, il s'attaque à l'abeille. Qu'est-ce qu'il prend? Parce que ça devient une source de protéines, cette abeille?
L'abeille n'est que la moitié de la ration alimentaire des frelons asiatiques. L'autre moitié, c'est de très nombreux insectes, des insectes butineurs, parce que c'est très facile pour lui de chasser sur les fleurs un insecte en train de butiner. Donc il va s'attaquer à de nombreux butineurs, pollinisateurs, et ça c'est vraiment quelque chose de très inquiétant pour l'entomofaune, c'est-à-dire la faune des insectes, mais aussi pour la reproduction végétale. Et les prélèvements sont énormes, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à avoir en permanence un véritable siège devant les ruches à partir du mois de septembre, même parfois au mois d'août en Gironde, et c'est un prélèvement incessant, donc il n'y a plus de rentrée de pollen, plus de rentrée de miel, plus de rentrée d'eau même, donc on va avoir un véritable siège, la reine arrête de pondre, il n'y a plus de renouvellement d'abeilles et la ruche arrive complètement épuisée en début d'hiver et ne passera pas l'hiver.
On n'a pas encore en fait d'études économiques sur l'impact, on va dire, de ces goinfres, mais ce qui est très étonnant, c'est que ce frelon asiatique n'est pas encore classé parmi les espèces nuisibles.
Alors c'est oui, parce que l'administration l'administration prend son temps pour la classification. Personne n'est pressé de trop le voir, mis à part peut-être les apiculteurs et les gens qui sont confrontés, parce que les apiculteurs sont confrontés en première ligne. Mais je peux vous garantir que les appels qui me parviennent sont beaucoup plus de personnes qui se retrouvent à avoir un nid à proximité de chez eux. Ce sont des insectes qui peuvent se retrouver dangereux.
Alors pas quand il est seul, hein. Faut dire que quand il est seul, a priori, il n'est pas dangereux. Hein.
Ah oui, il faut bien signaler la différence. Vous avez tout à fait raison. Si vous voyez un frelon asiatique en train de butiner, en train de chasser à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres de son nid, il n'est absolument pas agressif. Il va tourner, il va s'éloigner et il va vous laisser tranquille. Mais par contre, s'il sent que le nid est menacé, là, ils attaquent et les piqûres sont douloureuses et dangereuses. Il y a déjà eu plusieurs morts.
Quelles sont les techniques que l'on met au point aujourd'hui? Comment peut-on se débarrasser de ces fameux frelons?
Débarrasser totalement, je crois que c'est illusoire aujourd'hui. Mais par contre, on peut espérer le maîtriser, au moins rendre sa présence tolérable. La mesure la plus efficace reste le piégeage de printemps. Les communes où le piégeage de printemps est bien pratiqué, c'est-à-dire pratiqué au bon moment, au printemps.
Le moment en question, c'est on espère attraper les fondatrices de la colonie.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'une seule femelle fécondée est capable de créer un nid. Et donc à partir du moment où on a attrapé cette femelle reproductrice en début de printemps, on a éliminé un nid. Voilà. Alors toutes les femelles qu'on attrapera ne sont pas forcément des femelles qui sont fécondées, mais c'est à peu près la moitié. Et c'est un moyen considérable pour limiter la présence. On se retrouve, les communes où c'est bien pratiqué, c'est un à deux nids par commune. Des communes où c'est pas pratiqué, où le piégeage n'est pas mis en place, on se retrouve jusqu'à 70 nids sur la même commune.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors je ne sais pas du tout, on met le feu, on utilise des insecticides, comment ça se passe?
Ah non, c'est un piégeage tout à fait simple, au printemps avec des pièges à guêpes, c'est les plus performants, les pièges cloches. On met une solution de panaché, de bière et de limonade, qu'il faut renouveler régulièrement parce qu'il y a de l'évaporation et il faut que ça soit toujours, qu'il y ait toujours du liquide dedans. Hein.
Et c'est pas la peine d'utiliser une bière de grande marque, hein, d'ailleurs. C'est pas
non, et puis la limonade de basse qualité, c'est les odeurs sucrées qui les attirent. Au printemps, si vous voulez, la fondatrice, elle doit créer un nid, c'est aller chercher du bois, chauffer les larves, leur apporter à manger. Elle a une dizaine de larves à nourrir. Donc en protéines, c'est très facile. Hein. Au printemps, les insectes sont abondants et donc elle peut attraper des insectes sur quelques dizaines de mètres carrés. Par contre, avoir de la nourriture sucrée pour pouvoir chauffer, pour pouvoir construire, travailler et s'activer, il faut qu'elle cherche des endroits où le sucre est abondant. Alors, il suffit de bien placer des pièges au bon moment, c'est-à-dire du mois de la fin mars à la mi-juin. Et là, on a vraiment quelque chose d'efficace.
Merci Richard Legrand, donc apiculteur en Dordogne. Alors aussi, pour revenir sur votre question, Patrice, sur la différence entre notre beau frelon à nous et puis le cher frelon donc asiatique, c'est que le fameux Vespa velutina, c'est son petit nom à l'asiatique, il est très adapté au froid. Il démarre son activité, sa ponte, un mois à un mois et demi avant le nôtre, ce qui veut dire qu'il a un cycle au moins d'avance. Et puis, un nid de frelon asiatique contient en permanence 10 fois la population des nids voisins, de nos frelons à nous. Donc évidemment, il est très carnivore, il a besoin de protéines pour nourrir ses larves, ce qui explique sa capacité multiplicatrice. Voilà, vous savez tout. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Si, tenez, j'ai Terre Sauvage, numéro de Terre Sauvage qui est encore en vente, celui de septembre, avec non pas un sujet sur les frelons, mais sur la Slovénie. Donc c'est méconnu, c'est un tout petit pays qui est surnommé le cœur vert de l'Europe. Je vous le recommande, donc le numéro de Terre Sauvage de ce mois de septembre. On dirait que c'est un peu la fin de l'émission quand même. Eh oui, mais vous avez eu 5 beaux sujets. On se retrouvera donc la semaine prochaine avec Jean-Marie Pelt. Hein. Vous verrez, on va parler encore d'arbres avec lui. Merci à Pierrick Monsigny, à Rémi Quincé, à la technique, à Séverine Bouvard, notre assistante, à Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission. Jean-Baptiste Ozibert nous a choisi les 3 disques. Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Donc là aussi, différents sites sur le frelon et ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. Frédéric Danhé sera avec nous avec un nouvel ouvrage qui s'appelle La dictature du carbone. Très intéressant aussi, et en tout cas quelques coups de pied dans les idées reçues sur le CO2. Possibilité pour vous, je l'espère, de pouvoir réécouter cette émission pendant 4 semaines et de la podcaster pendant 1 semaine. Je vous retrouve demain avec plaisir. Ce sera après les petits bateaux de Noël Bréham, donc avec l'atelier Mon Petit Loup vers 19h54.